Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la bienvenue à Marcher vers le bien-être. Je vous propose aujourd'hui une exploration du merveilleux univers de la raquette. À coup sûr, la raquette évoque en nous une multitude d'images et de souvenirs. Pour certains, ce sont les autochtones et les coureurs des bois, représentés par Cornelius Krieghoff et autres peintres de l'époque. Et pour d'autres, c'est revivre la belle aventure des camps scouts d'hiver, où la raquette était très utile, sinon indispensable pour les jeux et les corvées. Ou encore, c'est l'âge d'or des clubs de raquette et des compétitions de raquette. Et, depuis quelques décennies, un engouement pour la raquette moderne rend beaucoup plus accessibles les randonnées à la campagne et en forêt, source de calme, de tranquillité et de bien-être pour le corps et l'esprit. Afin de mieux saisir l'évolution et l'importance de la raquette pour les premiers peuples, comme pour nous de nos jours, notre serein pèlerin Michel O'Neill et moi sommes allés à Wendake, près de Québec, à la rencontre de Steve Gros-Louis, dont la famille fabrique des raquettes depuis plusieurs générations. Steve est issu d'une famille d'entrepreneurs Huron-Wendat et participe très activement à la vie économique, sociale et culturelle de la communauté. De plus, à titre de président de Tourisme Autochtone Québec, il travaille sans relâche à promouvoir un rapprochement entre les peuples et un partage empreint d'authenticité, de respect et de durabilité. Voici donc l'entretien que Michel et moi avons apporté de notre visite chez Steve Gros-Louis à Wendake. Bonne écoute.
Alors Steve, merci beaucoup de nous accueillir ici pour parler de la raquette de la famille Gros-Louis, mais aussi un peu de la tradition de la raquette chez les Wendat. Et justement, si on parle de tradition, depuis quand les Wendat utilisent les raquettes?
Kouyaweti, Kouyavoudeu, merci de me donner la chance de pouvoir parler de notre nation, de notre histoire. Et de me donner la chance de parler de ce qui fait vibrer mes ancêtres et ma famille, qui dont la raquette à neige. Je vous dirais que la raquette chez nous, elle existe depuis des milliers d'années. Il n'y a pas un moment où est-ce qu'on recule dans notre histoire et qu'on ne voit pas qu'on utilisait la raquette à neige.
Même dans le temps où les Wendat étaient dans la baie Georgienne et dans ces environs-là?
C'est que dans le fond, il faut, si on veut faire un lien historique par rapport à la baie Georgienne, il faut savoir que les Wendat, notre quartier général était le Wendake Yéhin. On était 40 000 à vivre tout près de la baie Georgienne. Mais il faut savoir qu'on avait des maisons longues qui remontaient la Grande Rivière, donc communément appelé le chemin qui marche ou le fleuve Saint-Laurent d'aujourd'hui, jusqu'à Baie-Sainte-Catherine ou Tadoussac. Okay. Donc, lorsque Cartier, vous donne un exemple, va arriver dans les années 1534, il va tomber sur Donnacona, qui est un chef Wendat, qui est aux battures de Beauport, où est-ce que le fleuve se marie avec la rivière Saint-Charles. Donc, on a déjà un grand village qui est installé là. On est, je pense, 3000 qui vit là-bas, tout près de 3000. Mais il faut savoir que, justement, avec les contacts des Européens, à un moment donné, il va y avoir de l'épidémie. Surtout dans les années, je vous dirais, 1560, 1580, où est-ce que, oui, souvent, on va quitter des endroits parce que la mort est arrivée et on va se rassembler un peu plus bas. Mais on a toujours été du long du fleuve à ce moment-là.
Il y a toujours eu de la raquette, en fait.
Toujours.
Même quand c'était, parce que dans la baie Georgienne, il y a peut-être un peu moins de neige dans ce coin-là, mais...
Oui, jusqu'à quand on monte vers Québec, il y en a un peu plus, on est d'accord, en effet, oui.
Et dites-moi, est-ce que les raquettes utilisées par les Wendat étaient différentes de raquettes utilisées par d'autres Premières Nations en Amérique du Nord?
Oui, certainement. Vraiment, il y a des modèles distincts qu'on va remarquer beaucoup. Le modèle Huron, hein, comme on regarde, mettons, on va prendre une raquette en frêne de babiche, communément appelée, est vraiment une forme bien précise. On avait ce qu'on appelle aussi deux types de raquettes. On avait la raquette modèle Huron et on va appeler ça un peu la patte d'ours modifiée, qui est une patte d'ours, mais qui est un peu plus étroite que la patte d'ours qu'on va voir ou la raquette montagnaise qu'on voit du côté des Inuits qui est vraiment ronde ou est-ce qui est beaucoup plus difficile de marcher ou même jusqu'à penser un peu à la Nascapi. Donc, on est un peu plus étroit avec une queue à l'arrière. Donc, on pouvait se déplacer rapidement, mais aussi on pouvait rentrer en forêt avec notre raquette qui est la patte d'ours modifiée.
C'est un peu la raquette à laquelle on est habitué, nous, ici, là, dans les années 50-60, là, n'est-ce pas?
Exactement ça. Oui, oui. Et je vous dirais même que la patte d'ours modifiée ressemble beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui dans la raquette d'aluminium. Maintenant, la forme de raquette d'aluminium qu'on voit, la raquette moderne d'aujourd'hui, est un peu notre modèle qu'on avait autrefois de patte d'ours modifiée.
Alors, il y avait différentes types de raquettes ici au Canada, disons, la partie nordique, mais ailleurs dans le monde, et par curiosité, est-ce qu'on utilisait aussi des raquettes? Est-ce qu'il y avait d'autres coins de la planète où il y avait des raquettes une espèce de raquette?
Si je me rappelle bien, pour faire, mettons, un lien historique par rapport à la production que mon père avait à l'usine là, dans les années 50, 60, 70, il y avait deux grands consommateurs de raquettes à part qu'au Canada. Il y avait les États-Unis, évidemment, les Américains, et aussi il y avait l'Europe, où est-ce qu'on distribuait un peu de raquettes à neige, mais eux avaient déjà un peu un modèle de raquette un peu distinct. Je vous dirais, je ne me suis jamais creusé un peu la tête, mais je me souviens souvent que j'entendais mon père parler qu'il utilisait une botte de ski de fond à un moment donné pour un attelage pour leur raquette. Ils sont passés très rapidement, eux, à une raquette de type de plastique ou de résine, beaucoup plus rapidement qu'en Amérique. Donc, il était un peu différent. Mais je me souviens très bien qu'on avait des clients là dans les années 70 au niveau de Gros Louis Snowshoes. Ouais.
Mais en même temps, les pays nordiques, c'est eux qui avaient développé, comme en Scandinavie, les lapons, etc. Eux autres, c'était plus les skis, je pense, hein, qui avaient développé plus que les raquettes.
On le voit encore aujourd'hui, hein, la Norvège, au niveau du ski de fond, ils sont très performants. Vous avez très raison. Puis c'est un peu à un moment donné, on pourra en parler peut-être plus tard, mais c'est ce qui va venir à un moment donné aussi au sport de la raquette à neige avec l'arrivée du ski de fond en Amérique.
On a parlé, pour clarifier un tout petit peu, là, de la raquette type Huron, là, avec babiche et tout. C'est quoi la babiche, avant d'aller un peu plus loin, parce que le mot comme tel, avant qu'on se perde un petit peu là, dans le vocabulaire, là, les parties de la raquette.
Oui, c'est que dans le fond, lorsqu'on va parler des raquettes qu'on va parler plus aujourd'hui, on utilisait ce qu'on appelle la peau de vache, ce qu'on appelle chez nous la babiche, ça se trouve être la splette, excusez-moi l'expression, c'est qu'on vient fendre la peau en deux. Dans le fond, c'est que sur une peau de bœuf, OK, ou de vache, on va prendre le dessus pour le cuir et le dessous pour ce qu'on appelle faire notre propre babiche. Donc, et cette babiche-là va être trempée dans de l'eau, donc elle est molle et on peut la travailler plus facilement. Évidemment, autrefois, il y avait des produits chimiques pour qu'elle puisse se conserver, qu'elle pourrisse pas, excusez-moi l'expression. Donc, ça sentait très fort. Fait qu'un rasseur, je vous dirais, là, fallait qu'il perdait un peu l'odorat naturel parce que ça sentait très fort lorsqu'on lançait la raquette.
Mais traditionnellement, c'était en babiche, mais à ce moment-là, c'était du caribou ou c'était de l'orignal?
Exactement. Si vous allez, mettons, du côté des Inuits, c'était beaucoup plus le caribou.
Le caribou.
Lorsqu'on descendait vers un peu plus vers le sud, que ce soit du côté des Algonquins ou du côté des Iroquois comme nous, mais là, on pouvait utiliser soit l'orignal, le chevreuil pour utiliser. Pourquoi on a utilisé la peau de bœuf dans une éventualité? Et à un moment donné, même dans les années 60-70, on va venir à utiliser ce qu'on appelle un vernis marin pour installer sur le dessus de la peau de babiche. On la fait sécher et après ça, on la trempe dans un bassin de vernis pour qu'elle puisse le plus longtemps possible devenir imperméable. Parce que sinon, il fallait avoir des talents de lasseur. Parce que lorsqu'on partait en forêt, et lorsqu'on faisait des grandes randonnées, on tombait dans une neige qui était beaucoup plus mouillante. Ça ramollissait. On pouvait défoncer nos raquettes. Donc, ce qui est venu prévenir avec le vernis marin par la suite dans l'évaluation.
C'est pour ça, moi, quand j'étais jeune, en fait, j'en ai encore des raquettes en babiche. Là. Mais... il fallait absolument avoir des mocassins pour marcher en raquette parce qu'autrement, n'importe quoi d'autre talon, c'était trop dur, puis ça faisait casser la raquette ou ça faisait justement quand ça ramollissait un peu, là, ça travaillait. Là, puis,
Ça, vous avez tellement raison de dire ça. Puis même encore aujourd'hui, ce que je trouve dommage, si on peut faire un aparté avec la raquette moderne, c'est que les gens peuvent utiliser une botte régulière.
Oui.
Mais moi, je trouve toujours, c'est comme aller jouer au badminton. On ne prend pas des souliers de danse pour aller jouer au badminton. Donc, un mocassin, c'est la même chose. Je me dis toujours que je trouve ça navrant que les gens n'utilisent pas un mocassin parce qu'un mocassin, c'est léger. Un mocassin, c'est vrai que vous ne pouvez pas aller voir une parade du carnaval avec un mocassin parce que vous allez geler des pieds. Mais lorsqu'on est en mouvement, lorsqu'on marche, le mocassin va créer une chaleur, mais il y a une légèreté puis une souplesse qu'on peut avoir avec la raquette et on a un pur plaisir de sentir la randonnée. Ce qu'on n'aura pas avec une botte, excusez-moi, j'utilise un nom, là, mais une botte Sorel ou une botte Mokloc de l'armée ou quoi que ce soit qui est trop lourd, on s'essouffle et en plus, ben, on a une rigidité puis on n'a pas la sensation de c'est quoi la marche à raquette.
Mais en même temps, moi, je me souviens que mes mocassins, ça mouillait facilement. Fait qu'il fallait les imperméabiliser. Puis là, autrement, tu te mouillais les bas puis tu gelais
après. Oui, vous avez raison. C'est qu'on avait une semelle de crête où on n'utilisait pas ce qu'on appelle, nous, une graisse d'ours. Donc, lorsqu'on n'utilise pas une graisse d'ours, ça mouillait plus facilement. Ça, je vous l'accorde.
Donc, la raquette a beaucoup évolué au fil des années, au fil des siècles même. Et puis, si on retourne un petit peu en arrière, qui fabriquait les raquettes?
Vous savez,
dans
chez nous, je vous disais tantôt qu'on est un peuple iroquoien, donc on est un peuple sédentaire. C'est pour mettre un peu dans le contexte les auditeurs aujourd'hui, c'est qu'on vivait dans des maisons longues, c'était les mères de clan. Chez nous, dans un système matriarcal, où est-ce que c'était beaucoup la femme qui enseignait dans le village. Donc, la femme faisait l'éducation, l'agriculture, la langue, discutait des grandes décisions. Et l'homme, lui, venait qu'à défendre le village, à pêcher, chasser, protéger les siens. Et lorsqu'on avait un certain âge, on enseignait comment fabriquer le canot. Ce que je retiens de mon histoire, de mon peuple, c'est que souvent j'entends parler que c'était les hommes qui lassaient la raquette. Mais il n'y a aucun endroit, vu qu'on vient d'une tradition orale, qui est écrit que la femme ne participait pas à la fabrication de raquettes. Je vous dirais de pair, c'était l'homme. Mais je ne pourrais pas vous garantir aujourd'hui là, qu'il n'y avait pas une femme qui ne touchait pas aux raquettes, parce que compte tenu qu'il touchait à tous les métiers, ça ne m'étonnerait pas que la femme contribuait aussi au lassage de raquettes.
Est-ce que c'était peut-être familial, les enfants, est-ce qu'ils ou les aînés, ou en fait un peu tout le monde
le participait? Parce que vous savez, à ce moment-là, une tradition qui est orale, lorsque je vous disais qu'on enseigne beaucoup, on doit être capable de survivre en forêt. Tout à l'heure, je vous disais que lorsqu'on part en raquette, il faut être capable de lasser ses raquettes pour les réparer. Fait que c'est sûr que c'était enseigné dans un bas âge, c'est certain.
Et est-ce qu'on fabriquait les raquettes l'été, j'imagine?
Oui.
Parce que l'hiver, on était...
Non, on était en raquette.
On les
évidemment, en effet, oui. Il faut savoir que... Puis j'aime toujours... les Hurons, Wendat, étaient un peuple innovateur. On était des gens qui étaient toujours en évolution. C'est pas pour rien que nos qualités premières étaient la diplomatie, le commerce et l'échange, parce que... On était toujours à l'avant-garde. Je vous dirais, tu sais, des fois, je vais aller à un autre endroit. Vous savez, tu sais, aujourd'hui, on peut acheter des galettes de fruits là, dans des sachets lorsqu'on fait des randonnées. Nous, on travaillait ces types de fruits-là à l'intérieur de la maison longue, dans le haut. On venait qu'à aplatir les petits fruits et les faire sécher. Et on avait une méthode de conservation incroyable pour être... Donc, on était toujours en avant. Fait que c'est certain que les raquettes étaient faites l'été parce qu'il y avait besoin de sécher au soleil pour être capable d'aller chercher la plus dureté du nerf de la peau, dans le fond.
Et plus facile de manipuler les peaux, en fait, aller chercher le bois et tout ça.
Le frein était le bois utilisé, donc on devait le faire tremper. Oublier que dans le temps, on n'avait pas les
chambres,
les plieuses avec la chambre d'humidité qu'on peut faire aujourd'hui à vapeur. Donc, on devait les faire tremper dans l'eau, donc c'est assurément, c'était fait l'été.
Et on parlait tout à l'heure de, en fait, différents types de raquettes. La pâte d'ours et ainsi de suite. Est-ce qu'il y avait des raquettes pour les enfants, par exemple? Est-ce qu'il y avait des raquettes pour différentes activités? C'était quoi la panoplie du type de raquette?
Écoutez, il y avait... Ce qu'il faut savoir, c'est que... Maintenant, je vais vous parler un peu... on va dire, chez nous, on les appelle les raquettes soit algonquines ou on va dire la Hobjiboué. OK? Donc, on va regarder du côté de l'Ontario, des plaines. C'est une raquette qui était très fine et très élancée. Pourquoi? Parce qu'il était dans des plaines.
Ça ne calait pas.
Ben oui, à l'époque, ils étaient dans des plaines. Donc, beaucoup, excusez-moi l'expression, le bois sale, il n'y en avait pas. Donc, eux, ils pouvaient marcher longtemps en s'essoufflant moins, en ayant une raquette plus étroite. Mm-hmm. C'est certain que si on veut avoir une raquette qui est beaucoup plus étroite, il faut la mettre plus longue, parce que sinon, elle ne vous porte pas selon votre poids. Donc, à ce niveau-là, du côté de l'ouest, on y allait de ce côté-là. Lorsque je vous parlais chez nous, parce qu'on travaillait avec à partir des Grands Lacs jusqu'à... Tantôt, je vous parlais de Baie-Sainte-Catherine ou de la Gaspésie. On travaillait dans deux types. Donc, c'est pour ça qu'on avait une raquette qui était quand même élancée, mais qu'on pouvait quand même aller chercher, je vous dirais, un 16-18 pouces de large en haut du côté du pont, tu sais, à la hauteur de la raquette. Donc, on pouvait utiliser ce type de raquette-là. C'est sûr que si on allait à la trappe, bien là, on avait notre deuxième type de raquette, parce qu'on en avait deux, qui était la patte d'ours modifiée, donc beaucoup plus étroite, mais un peu plus large, donc qui peut aussi nous tenir... Parce que souvent, et je vais faire la partie avec les raquettes d'aujourd'hui encore une fois, c'est que souvent on voit aujourd'hui les randonneurs qui vont utiliser des bâtons pour marcher avec les bâtons. Ouais. Et on me posait la question à un moment donné, parce qu'on vend des bâtons maintenant à la boutique, vous utilisez ça, vous, les hurons? Non, on n'utilisait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on utilisait des raquettes qui étaient beaucoup plus larges. Donc, c'était des raquettes qui nous portaient. Et on avait besoin d'avoir soit un arc ou soit avoir de quoi se défendre.
Les mains libres, en fait.
Exactement. Donc, on n'avait jamais des bâtons dans les mains, mais on n'en avait pas besoin. Parce que la raquette d'aujourd'hui, les gens, ils veulent moins s'essouffler. Ils veulent aller dans un sentier qui est pré-tapé, bien souvent. Et pour se stabiliser, ils vont prendre des bâtons pour des bâtons de marche ou pour se stabiliser en marchant. Donc, c'est ça la différence aussi qu'on n'avait pas autrefois qu'on a aujourd'hui.
Parce que dans la grosse neige, moi, je vais toujours me rappeler quand j'étais dans les scouts, à un moment donné, on est allé faire un camp d'hiver, on est rentré dans le bois, mais avec un 2-3 pieds de neige folle, là. Puis on était 2-3 qui suivaient. Puis à un moment donné, il y en a un qui est tombé, puis toutes les autres ont tombé, puis ça nous a pris quasiment une demi-heure à se relever. Avec les packs sacs, c'est assez rude dans la grosse neige, là, de te relever en raquette. Me dire que c'est vraiment pas facile. Là. Oui. Puis c'est pour ça que je me disais, peut-être les bâtons, tu sais, s'il y avait eu ça, avoir eu des bâtons.
Pour s'aider, oui. Mais il faut savoir aussi, c'est que la raquette d'aujourd'hui, c'est un tapis plein. Hein? Donc, ce que je trouve dommage de ça, c'est qu'on s'efforce beaucoup lorsqu'on va aller dans la poudreuse ou dans un endroit qui n'a pas été pré-tapé. Donc, on a à sortir énormément de neige. À chaque coup de marche qu'on va faire, on doit évacuer la neige qui est sur notre tapis de plastique.
Ouais, tandis que quand il y avait des trous, ça passait à travers.
Notre tri passe à travers. Donc, c'est pour ça que oui, elle est adaptée, mais encore la raquette à bois d'aujourd'hui, elle a encore une belle utilité lorsqu'on doit aller en forêt ou est-ce qu'on doit aller dans la poudreuse ou lorsqu'on veut faire aussi de l'observation d'animaux. Parce que si, mettons, on veut aller photographier les oiseaux, les animaux, le métal, l'animal détecte quelque chose de synthétique.
Ah, c'est intéressant
ça. Et lorsqu'on marche sur la neige, vous suivrez
des randonneurs. C'est un bruit, c'est un...
C'est flagrant, je vous le dis. Vous suivez des gens qui marchent en raquette de plastique, vous les entendez venir de loin. Et la raquette de bois à trier en pot va faire en sorte que, oui, elle fait moins de bruit, mais aussi lorsqu'on va franchir sur une branche, ou là, c'est bois sur bois qui se frappe.
Oui.
Et là, donc, à ce moment-là, c'est un bruit naturel pour les animaux. Et c'est pour ça qu'on recommande aux gens qui viennent à la boutique de prendre, tout dépendant, ce qu'ils veulent faire. S'ils font de l'observation animale, c'est sûr et certain qu'on va leur vendre une raquette de bois.
Ah, c'est intéressant quand même. Alors, ici... C'est plus traditionnel même pour nous, hein. On sent, ben, en fait, qui ont vécu peut-être quelques années de plus, là, quand on pense raquette, on pense bois, on pense babiche, plutôt que... On y reviendra tantôt aux raquettes modernes, là. Mais, et la patte d'ours, si j'ai bien compris, ça nous aide aussi à porter des charges. Hein. C'est ça, c'est un thème important quand même.
C'est très important. Lorsqu'on va avoir des gens qui vont dépasser les 200 livres, et qu'on va penser à avoir une charge, il est certain qu'on doit élargir le pont. Donc, la patte d'ours vient en sorte aider vraiment les gens de bon gabarit ou qui vont faire du portage. Sinon, on doit y aller, comme je vous disais, avec une raquette qui est très élancée, mais qui va être très longue, donc un 60 pouces et plus au niveau là, de la portée arrière.
Mm-hmm. Oui, oui. La raquette a connu une baisse importante, là, je pense, les années 40, 50, 60. Ben, en fait, les premiers 60, colons, 70,
je pense,
les colons, les premiers, quand ils sont arrivés, C'était la raquette Huron, hein, mm-hmm. la raquette traditionnelle de bois et babiche et tout. Oui. Et puis, moi, je me souviens, dans les scouts, justement, on avait cette même raquette. C'était pratiquement la seule qu'on avait à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis là, il y a eu une baisse avec le ski de fond qui est arrivé. Puis là, c'était l'engouement pour le ski de fond. Et on a perdu un petit peu, sans jeu de mots, la trace de la raquette.
Vous avez raison. Ça, ouais. Si je regarde, mettons, là, à partir des années 1920, 1930, 1940, on va avoir ce qu'on appelle au Québec les clubs de racketeurs. Mmh. C'est très, très populaire. Il va y avoir des grandes courses qui vont être organisées. Il y a des sprints aussi, tu sais, on va appeler ça, mettons, pour les gens qui suivent les Olympiques, tu sais, du 100 verges, 200 verges, 1 km et demi.
Ah, oui.
Il va y avoir des choses comme ça, comme à la course du carnaval ici sur la rue Sainte-Thérèse, il va y avoir des sprints aussi qui vont être organisés. Donc, le club de racketeurs, c'est très populaire. Il y a des villes, des grandes villes qui ont 4, 5, 6 clubs de racketeurs. Et à un moment donné, il va arriver les années 60, 70. Mais c'est paradoxal ce que je vais vous dire parce que j'ai vu un article sur mon père à un moment donné qu'il nomme le roi de la raquette. Et là, il est debout à son usine et les raquettes sont jusqu'au plafond. Puis c'est dans les années 70. Fait que nous, vu qu'on distribuait au niveau de l'Amérique du Nord au complet, on avait quand même un certain succès. Vous savez, chez Gros Louis Snowshoes, on va employer à la fin des années 70. Mi-70, on va avoir jusqu'à 100 employés qui vont travailler chez nous. Donc, à peu près une 60-65 à l'usine comme telle. Et on a un 30-35, c'est des familles dans les sous-sols, dans les cabanons, qui vont lasser le soir. Donc, moi, je me souviens, en étant jeune, partir avec mon père, aller mener ce qu'on appelle le fût de raquette, donc la raquette qui a été pliée, qui a été amaillée du nylon, et on va dans les familles porter les raquettes, et on amène de la babiche, et eux lassent les raquettes dans les petits garages, les petits établis. Et donc, c'était quand même une des bonnes années. Où est-ce que je vous dirais, moi, que, pour moi, là, où est-ce que je fais vraiment un grand fracas, là, c'est années 80. De 80 à début des années 2000, donc 98, 99, là, 2000. Là.
Quand les nouvelles raquettes sont arrivées. Là.
Oui, exactement. De 80 à 2000, ces 20 ans-là sont les années noires de la raquette, selon moi.
Traditionnel.
Traditionnel, oui, c'est ça, oui. Oui, exactement. Mm-hmm. Je vous dirais que, tu sais, écoutez, la crise de 81 n'a pas aidé, là, lorsque le taux d'intérêt montait à 21%.
Ben oui.
Moi, je me souviens, mon père avait envoyé des raquettes en Europe, avait envoyé des raquettes aux États-Unis, et deux gros clients qui ont tombé sur la faillite, et mon père a dû se trouver un associé. Et de là est devenu justement, ce qu'on dit avant, Gros Louis Snowshoes va devenir en 82 Gros Louis Vincent, donc la raquette GV d'aujourd'hui, qui est encore, c'est la famille Vincent qui exploite l'usine maintenant. Donc, cette union-là va venir justement de cette crise économique-là.
Alors, Steve, c'est un moment opportun pour prendre une petite pause musicale. Et au retour, on parle justement de la famille Gros Louis, la raquette, la tradition, la famille Gros Louis. Mais là, vous avez une chanson toute particulière à nous présenter. C'est très touchant. Alors, je vous laisse la parole.
Aujourd'hui, j'aimerais que les auditeurs puissent découvrir ce qu'on appelle chez nous « Little Star ». C'est ma fille, la plus vieille de mes deux filles. J'ai trois enfants, un garçon et deux filles. Et ma fille a composé une chanson lorsque ma nièce, la filleule de ma femme et les meilleurs amis de ma fille, est décédée pendant son sommeil au tout début de la pandémie. En avril 2020. Et ma fille, pour le service funéraire, avait décidé d'écrire pendant la nuit une chanson en son honneur. Et par la suite, lorsqu'il y a eu l'événement Coué à Québec et qu'on a retrouvé les corps des jeunes dans les pensionnats du côté de l'Ouest, beaucoup, cette chanson-là, dans le fond, elle rappelle les enfants qui nous ont quittés trop tôt. Et lorsque Kiara a fait ce chant-là à l'ouverture de Coué, ça a touché énormément les gens. Le Bert Labaume avait demandé à ma fille qu'on puisse enregistrer la chanson à l'Ampli de Québec pour la remettre aux autres communautés qui sont éprouvées.
Oui.
Et ce qui est le fun, c'est que c'est une participation familiale. C'est elle qui fait les chants, la guitare acoustique. Ma plus jeune fait la piano et j'ai eu le plaisir et le privilège de faire les percussions au tambour.
Alors, écoutons Little Star.
Holy star, fallen from the sky, there's nothing I would do to have you by my side. 'Cause even you're not there, I know somewhere far away from here, you're listening.
Alors, nous sommes toujours en compagnie de Steve Grouloux et de Michel O'Neill, notre serein pèlerin à l'émission Marcher vers le bien-être. Alors, Steve, la famille, Grouloux, la raquette, c'est synonyme, là?
Oui, je vous dirais, chez nous, ça l'a toujours été. J'essaie de reculer, voir où est-ce qu'on ne fabriquait pas de raquettes dans ma famille. Je ne le vois pas.
Oui.
Ce que je sais, c'est que dans les années 1939, mon grand-père Delphis a sa propre remise. Hein, on appelait ça une remise à l'arrière, un atelier. Où est-ce que y a des gens qui viennent lasser avec lui, qui fabriquent sa propre raquette à neige. Il y aura à un moment donné, en 51-52, mon père et lui feront la première page là, du Rider Digest.
Ah oui!
En train de justement lasser. Mon grand-père est en train de lasser. Mon père est en train de chauffer le petit poêle à bois. Vous avez ma tante qui est à côté, Monsieur Romain, là, qui sont en train de lancer une belle photo noir et blanc du Rider Digest. Et mon père, à un moment donné, chez nous, son nom traditionnel est justement Tomayuane, qui veut dire le racketteur. Donc, c'est Antoine Tomayuane Grouloux, va créer Grouloux Snowshoes en 1959. Faut savoir que mon père, à ce moment-là, est le premier policier de la communauté chez nous. Une fois que la gendarmerie royale a quitté le village, a été nommé le premier
policier. Ici à Wendake.
À Wendake. Oui. Et à ce moment-là, va quand même démarrer sa première usine qui va avoir lieu dans le sous-sol de la maison chez nous. La première usine va avoir lieu.
Un bon entrepreneur.
Oui, exactement. Donc, on a les scies à bois et tout et tout. Moi, à ce moment-là, évidemment, je n'ai pas encore vu le jour. Mais par la suite, il va y avoir une petite usine qui va pousser, un genre de petit dôme qu'on voyait souvent autrefois, les premières usines, et un genre de dôme. Du côté où est-ce qu'on a maintenant la caisse populaire, là, pour ceux qui viennent, qui connaissent la communauté chez nous. Et il y aura, dans les années 70, il y aura la grande construction de l'usine qui est dans le parc industriel d'aujourd'hui encore. Et je vous dirais que c'est là que ça va vraiment prendre une grande expansion. Comme je vous disais, on était à peu près une soixantaine d'employés qui travaillaient là. Il y avait aussi une quarantaine de familles là, qui est un peu partout autour, donc Saint-Émile, Loretteville, Charlebourg, là, qui vont fabriquer à ce moment-là.
Ça pas juste à ce moment-là des gens de la communauté Wendat.
Non.
Il y avait des employés qui venaient d'un peu partout.
Donc. Parce que vous savez, chez nous, les Wendat, on n'a jamais hésité à démontrer notre savoir-faire. Moi, je pense que c'est comme ça qu'une tradition orale doit fonctionner à un moment donné. On n'a jamais hésité à savoir comment démontrer aux gens comment lasser. Et encore aujourd'hui, j'ai un cousin, moi, qui s'appelle Denis Grouloux, qui fait encore de la démonstration de lassage lors des pow-wow ou d'autres événements, puis qui démontre comment on faisait le lassage traditionnel.
Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui avait motivé la création de l'entreprise? Est-ce qu'on vous en a parlé, peut-être?
Je vous dirais que il faut savoir que depuis des millénaires, notre peuple est commerçant. Donc, avant même l'arrivée des colons, on contrôlait justement avec notre plateforme. Je vous parlais tantôt de notre plus grand village, là, qui est près de la baie Georgienne, Winnetan-Gwich'in, où est-ce qu'on est à peu près 40 000 Wendat à vivre là-bas. On commerçait déjà avec le nord, l'est, le sud et l'ouest. Et donc, je pense déjà là qu'on fabriquait déjà nos raquettes pour échanger. Et je pense que c'est devenu, je dirais même viscéral à travers de ma famille à moi. Tu sais, vous savez, moi, j'ai épousé une fille de chez nous, OK, qui est une Siwi. Quand je regarde sa famille, je vois que depuis des décennies, pour pas dire plusieurs décennies, je vois que ce sont des gens de droit. Qui défendent les droits, qui sont allés justement défendre le traité de Murray. Mais je vois dans ma famille des commerçants. Je vois plus le côté entrepreneur, fabricant de raquettes. T'sais, on a chacun nos souches. Et c'est pour ça que j'essaie de relever. Mais vu qu'on est d'une tradition orale, je ne suis pas capable de mettre de date jusqu'à
temps.
Depuis combien de générations on fabrique la raquette à neige? Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'on prend des notes ou qu'on marque des choses dans un livre, je vois que ce soit mon grand-père ou mon père ou nous, ça a toujours été la raquette à neige.
Et vous avez fabriqué tous les types de raquettes ou oui. Surtout la raquette Huron? Ou...
Non, nous on a fabriqué chez nous, on a la raquette, comme je vous parlais tout à l'heure, de l'Objiboué, on en a fabriqué, donc c'est deux tiges de frein qui viennent se marier à l'avant et à l'arrière. Mm-hmm, mm-hmm. On a fabriqué ce qu'on appelle, nous, exactement ce qu'on voit ici. On a fabriqué ce qu'on appelle, nous, on l'a baptisé chez nous la Lascan, mais qui est un peu une style algonquine, qui est un peu un modèle comme ça, mais qui va être arrondi, mais qui va être très étiré, donc qui se fait bien aussi.
Pas avec une queue, mais qui est fermée en arrière.
Oui, exact. Et après ça, on a fait la patte d'ours. On a fait la patte d'ours modifiée, qui était un de nos gros vendeurs, je vous dirais, c'est la patte d'ours modifiée.
Ah oui?
Oui, parce qu'elle était légèrement plus étroite, mais elle était très accessible pour les cabanes à sucre. Le trapage.
Oui, on était capable de tourner sans s'enfarger dans le boissage.
C'est ça, c'est ça, vous la connaissez bien. Et donc, et évidemment, notre modèle principal qui était la Wendat, la Huron, qui est une raquette qui pouvait avoir pour la femme 12 pouces au niveau du pont, 14 ou 16 pouces pour les hommes, de 42 pouces de long ou de 48 pouces ont été nos modèles les plus vendus, là, je vous dirais, partout en Amérique.
Alors, dans votre entreprise, c'était surtout la fabrication au début, évidemment, artisanale, traditionnel, et c'est devenu un peu industriel. Comment s'est fait l'évolution, le changement?
Je vous dirais que lorsqu'il va, dans les années 30, à un moment donné, 40, mon grand-père va partir, puis il va aller développer le cuir à Saint-Tite-de-Champlain. Vous savez, chez nous, là, travailler le cuir, c'est comme...
Seconde nature. Là.
C'est exactement. Oui. Donc, son expertise va être tellement appréciée qu'il va aller développer le cuir à Saint-Tite-de-Champlain. Et je pense qu'à ce moment-là...
Pour les selles du Festival Western.
Je ne sais pas quoi. Je vais vous dire, je ne sais pas de quel type de cuir on travaillait. Mais ce que je sais, c'est que mon père va grandir là-bas. Et je pense qu'il va découvrir, à un moment donné, le côté vraiment mécanique industrielle. Et je pense que ça va lui servir. Puis là, je vous dis ça, puis c'est des choses qu'en jasant avec lui, c'est pas des faits précis, mais qu'il y a une expertise qui se développe et à un moment donné, on revient il revient avec son père dans la communauté. Et évidemment, sa femme était ici avec les autres enfants, les sœurs et les frères. Et il va démarrer une industrie. Et là, on passe vraiment d'un atelier à une usine avec des outils, des machines à plier à air.
Donc, c'est en quelle année?
Je vous dirais que mon père lui a décollé en 1959,
oui.
Mais je pense que c'est dans les années 40 qu'il est allé travailler à Saint-Tite-de-Champlain. Oui.
D'accord. Donc, l'élément ou l'inspiration pour l'industrialisation de la raquette, c'est venu à ce moment-là.
Oui, je pense que oui. Tu sais, 40-50, là, je vous dirais, mettons, je pense qu'à ce niveau-là, oui, en effet.
On parlait tout à l'heure des années noires de la raquette, les années 80, mais en fait, encore une fois, la raquette traditionnelle. Là, comment la famille a vécu cette période-là?
Ça va vous faire rigoler parce que vous savez qu'à un moment donné, je veux faire un... Ça va rappeler des choses aux gens de Québec. Vous savez, en 84, il y avait le 1534-1984, oui. Les ponts devaient être bouchés, ils devaient tellement avoir
de jusqu'à Drummondville.
Oui, vous souvenez de ça?
Oui, les stationnements
à Drummondville. Je me souviens, mon père avait loué à l'intérieur d'un commerce dans le Vieux-Québec pour vendre de l'art et de l'artisanat, puis tout le monde pensait faire de la grosse business et c'était parti, ça avait fait un gros flop. Je ne rappellerai pas ça aux gens de Québec, mais en tout cas, quelque part, il faut en parler, hein? Il faut se servir du passé pour regarder vers l'avant.
Pour apprendre, oui.
Et là, on s'en va nulle part. Nous, à ce moment-là, les visiteurs sont pas présents à Wendake, on peut se dire les vraies choses, il y a très peu de gens qui viennent nous visiter, le tourisme n'est pas là. Et en 85, mon père, comme je vous dis, il faut qu'il sorte sur un 10 cents,
oui.
Et on va ouvrir un club vidéo. Donc, à l'intérieur de la fabrique de raquettes, où est-ce que des décennies ont passé, des ventes, des merveilleuses ventes avec... de tout, de tous, avec une émission populaire à TVA, à ce moment-là, ça s'appelait, je pense, Télémétropole. On n'est plus là, pas du tout. Donc, on est obligé de se lancer dans la vidéo. Et un club vidéo est né à l'intérieur. Fait qu'on avait un mur de cassettes vidéo et à côté, on vendait des raquettes. C'était quand même paradoxal, la vision de ça. Mais
assis sur un divan et faisant la raquette. Il y a quelque chose.
Il y avait quelque chose là, d'un peu spécial, mais bon, écoutez, on a traversé ces années-là pour être capable de pouvoir. Traverser la prochaine décennie. Par la suite, par contre, lorsqu'il va arriver, je vous dirais, parce que je relatais justement avec ma sœur ce matin, parce que nous, on a acheté l'entreprise de mes parents en 2000-2001. moi puis ma sœur, on a décidé de reprendre la boutique. Parce qu'à un moment donné, ici, dans le vieux Wendake...
Qui était l'entreprise, l'usine et tout, là.
Oui, exactement. Okay. C'est que là, nous, on est toujours en collaboration avec la famille Vincent, mais de moins en moins, mon père va vendre l'usine de raquettes en 2000-2001. Okay. Donc, nous, on va par contre...
Au Vincent.
OK. Okay, l'usine physique, là, ouais. Dans le fond, va être vendue au Vincent. Et nous, on va acheter la boutique. Moi okay. puis ma soeur, on va collaborer pendant jusqu'à la mort de M. Maurice Vincent, le père qui était l'associé à mon père. On va collaborer sur le développement, on va toujours jusqu'à la mort de M. Vincent, on a toujours, à partir du moment où son fils a repris les entreprises, il a décidé d'aller vers lui, puis nous on s'est concentré vers la boutique. Mais jusqu'à ce moment-là, on a une belle collaboration, encore une belle collaboration, mais je veux dire au niveau du développement.
Là, oui.
OK. Et je me souviens très bien, pour en avoir discuté ce matin avec ma soeur, parce que souvent on lit dans les textes que, bon, en 2008, l'explosion de la raquette moderne, mais nous, ça, on a vu ça avant. Je vous dirais qu'en 2005, 2006, 2007, là, on a atteint des points de vente incroyables sur la raquette moderne.
Vous l'avez vu venir, là.
Vraiment. Oui, parce oui. que, en fin des années 80.
Est-ce que c'est vous qui avez développé ces idées et ces modèles-là, ou ça a été développé ailleurs, puis vous avez repris plus la fabrication et la vente?
Non, on a vraiment développé GEV avec notre collaboration, et l'équipe de raquettes GEV a vraiment développé une raquette de pointe. OK? Donc, dans la fin des années 90,
moderne, là,
oui,
moderne,
dans le fond, c'est ouais. qu'on a commencé, dans la fin des années 90, c'était de la raquette qu'on appelait avec une résine, donc une raquette de plastique, OK? C'était okay. correct, avec beaucoup de trames de métal en dessous parce qu'elle était glissante, donc il fallait quand même pour... Mm-hmm. Mais vraiment, là, c'est vraiment la raquette d'aluminium, comme on la connaît aujourd'hui avec un tapis de plastique. On a développé un harnais. OK,
avec un ratchet
qui était très, très résistant.
On était plus dans la mèche à fanal. Moi, quand j'étais petit, c'était oui. il y a eu une période mèche à fanal.
Oui, vraiment.
Ça voulait dire.
C'est quoi la mèche à fanal?
Ben, c'est un fanal à l'huile.
Oui, oui.
Il y a une mèche.
Tout simplement.
Oh, oui. Oui, puis la mèche, c'est à peu près 3/4 de pouce de large. Là.
Ah, oui. C'est vrai.
Puis à un moment donné, c'est ça, là, ça mouillait, puis là, ça gelait. Donc là, quand tu essayais d'attacher ça ou de détacher ça, c'était tout un contrat.
Mais on en a vendu beaucoup, hein, vous savez. Parce qu'on avait, il y avait deux types. Il y avait la mèche à fanal et il y avait la harnais en cuir. Mm-hmm. Okay? La harnais en cuir, le problème, c'est qu'on commençait la journée au premier trou, ou au troisième, mettons, puis on finissait la journée au huitième, si il ne nous manquait pas de trou parce que l'harnais avait étiré. Donc, la mèche à fanal était plus compliquée parce qu'elle gelait, mais elle étirait beaucoup moins. Donc, elle était plus dur, donc les gens préféraient la mèche à fanal à un certain moment.
Oui.
Et c'est ça, c'est que si on revient, je vous disais, c'est qu'à la fin des années 90, on va être dans la raquette de plastique, mais au début des années 2000, là, on est up to point, on est vraiment, ça accroche avec notre raquette d'aluminium. Et il va y avoir une explosion en 2005, 2006, 2007, puis 2008, on va atteindre un apogée de la vente de raquettes d'aluminium.
Je suis juste curieux de voir, par exemple, est-ce qu'aux États-Unis ou est-ce qu'ailleurs, on a copier ça ou tout le monde a eu à peu près la même idée en même temps comme...
Je vous dirais que c'est difficile de vérifier parce qu'aujourd'hui avec Internet et tout ça, les modèles se copient rapidement et ce que nous on avait développé, c'est ce qu'on appelle le pont à pivot. Donc un pont à pivot qui évitait justement, au lieu que ce soit des bandes de caoutchouc, notre pivot avait été breveté et on était capable c'était plus facile pour la cheville, beaucoup moins forçant que le pivot en caoutchouc et c'est ce qui a fait notre renommée. Par contre, évidemment, ça allait exploser sur le marché international et à un moment donné, justement, vous alliez dans un dépanneur et on vendait des raquettes et un jour, les Chinois se sont embarqués sur le marché et ont tué, je vous dirais encore une fois, le marché de la raquette parce qu'ils sont arrivés avec des prix. Est-ce que les gens ils voulaient sauver des sous et à un moment donné, acheter des raquettes, mais je ne vous les recommande pas pour aller en randonnée. Tu sais, je veux dire, vous pouvez aller déneiger votre cabanon avec, mais partez pas avec ces types de raquettes-là pour aller faire une grande randonnée parce que vous risquez de revenir, puis vous allez avoir été essoufflé de revenir en calant dans la neige. Là, tu sais, puis je dis pas ça pour envoyer de flèches à personne, mais c'est juste que c'était pas la même qualité de raquette.
C'est intéressant parce que vous disiez tout à l'heure que c'était presque un péché sacrilège de penser aux raquettes modernes quand on fabriquait les raquettes traditionnelles. Vous avez eu un changement. La famille a eu une espèce de changement d'attitude, j'imagine. Là.
Je vous dirais, puis j'aime vraiment ce que vous dites là, parce que moi, autant que je vais être dans la modernité et dans l'évolution, autant que j'ai été réfractaire. Parce que, comme je vous ai dit, je suis un gars qui fait de la raquette.
Mais voilà, oui.
OK, fais de la raquette.
Oui. J'en fais encore.
J'en fais encore aujourd'hui. Malheureusement, mes genoux commencent à me faire beaucoup mal, donc j'en fais moins. Je marche beaucoup moins à part qu'à la chasse, puis lorsque je fais de l'observation ou je vais en forêt, parce que j'essaie de conserver mes genoux parce que je suis un danseur traditionnel. Et j'ai dû arrêter le hockey, justement, et les grandes marches, parce que sinon, ça va prendre des interventions chirurgicales. Mmh. Par contre, oui. Moi, je vous le dis encore aujourd'hui avec humilité, autant que j'ai vendu de la raquette moderne, autant que j'ai de la raquette moderne chez nous, mais lorsque je prends une belle randonnée, je pars avec ma raquette de bois. J'ai beaucoup plus de plaisir et mes genoux sont beaucoup moins éprouvés avec une raquette à treillis. Donc, ça laisse passer la neige. Et aujourd'hui, on peut avoir un attelage en ratchet sur une raquette de bois ou ce qu'on appelle une claque de caoutchouc. Tu sais, comme les claques, là, ce qu'on met, comment on appelle là, pour les chaussures. Là,
les claques.
Donc, on a un harnais en type de caoutchouc qui se fait très bien avec n'importe quel type de botte pour mettre sur une raquette. Et moi, j'entends déjà les auditeurs dire, ouais, mais quand tu vas en montagne, master, nos petits attelages qu'on met à ratchet, on met deux petits pointes de métal. Et elle grippe pareil lorsqu'on veut monter. Pour moi.
Ouais, puis c'est descendre aussi, des fois, c'est rock'n'roll.
En effet, vous avez raison. Et c'est pour ça que moi, j'ai encore un plaisir à marcher avec la raquette de bois. Mais oui, évidemment, je comprends très bien que les gens préfèrent plus. Les voitures sont plus petites, le coffre à bagages est plus petit, donc on voyait qu'une raquette moderne. Et aussi, les gens utilisent beaucoup le sentier.
Exactement.
Donc, pré-taper. Fait qu'ils n'ont plus besoin d'une grande raquette. Moi, c'est parce que je fais de la raquette en forêt. Ouais. Donc, c'est plus demandant un peu. Donc, je prends une raquette qui est plus grosse aussi.
Puis, à la limite, maintenant, dans les sentiers d'hiver, c'est pas pour rien que les crampons sont sortis sur le marché parce que, dans le fond, d'habitude, une fois que c'est tapé un peu, tu n'as même plus besoin de raquettes.
Vous avez raison. En effet. C'est vrai.
Les gens se prennent avec des crampons.
Oui, en effet.
Donc, si je comprends bien, c'est un peu le mariage des deux, la raquette traditionnelle qui a été modifiée, adaptée au goût du jour, plus moderne. Et
avec les attelages. Oui. Ça, les attelages, ça fait une grosse différence.
Oui. Moi, je vous dirais que ça, même ce qui m'avait fait rigoler à un moment donné, puis je ne pensais jamais me rendre là dans la raquette à neige, c'est les gens qui venaient choisir leur couleur. Ah oui. Tellement ça l'avait évolué, je me souviens qu'à chaque année, on changeait des couleurs. Et là, les gens voulaient avoir la couleur de la dernière année. On voyait ça dans le ski alpin, on aurait vu ça dans le snow. Mais de voir ça dans la raquette, à un certain moment donné, jamais j'aurais cru ça. Mais on choisissait nos raquettes en fonction des couleurs, les nouvelles tendances. Assez que, tu sais, moi, j'ai toujours préféré même les premiers tapis des années 2000 où est-ce que c'était un tapis qui était d'une couleur, mais qui la couleur restait. Mais à un moment donné, on est tombé avec des impressions. Donc, il y avait plusieurs caméos ou ce que vous voulez, mais ça, avec la boîte, ça finissait par s'user. Mais les gens préféraient ça pareil. Fait qu'on était rendu à une mode. Jamais j'aurais cru ça. Vous m'auriez dit ça 25 ans avant, j'aurais dit, impossible, mais on s'était rendu là à ce moment-là.
Oui, oui. Alors,
je suis juste curieux, quand est-ce que les petites raquettes que les gens utilisent maintenant pour la compétition de course en raquettes, ça a repris, il y avait les temps des raquetteurs, c'était avec des grandes raquettes en babiche.
Je suis content.
Là, maintenant, c'est comme un flac ou à peu près. Là, vous commencez à produire ça, vous. Puis,
Me souviens, là, quand j'étais tout petit, là, on appelait ça la raquette de course. C'était une petite raquette forme patte d'ours, elle n'était pas plus grosse que ça, et on en vendait. Fait que je vous dirais que dans les années 60-70, j'en avais à la boutique. Donc, on avait déjà en bois, petite raquette de bois, puis on appelait ça les raquettes de course. Je me souviens. Et moi, j'avais toujours pensé, quand les premiers temps, pourquoi la raquette de course? Je pensais plus que c'était une raquette de dépannage qu'on mettait dans un véhicule si on restait, mettons, pris. Hein. Autrefois, les grandes tempêtes de neige, on n'avait pas les grues d'aujourd'hui pour ouvrir les chemins. Et ça, j'aimerais ça vous faire un aparté là-dessus. Je m'excuse, là. Mais ce que les colons d'autrefois ou l'alloctone d'autrefois n'ont jamais compris, et ce que nous, on disait, c'est qu'eux essayaient, oublions les charrues, les grattes à neige qu'on a aujourd'hui, là. On reculait un peu dans le temps. Lorsque les gens devaient pelleter la boute de rue en avant qui habitait. Et ce qui nous surprenait, puis j'entendais des anciens dire, ça se peut-tu, ils déplacent la neige au lieu de se déplacer sur la neige.
Ils attendent au lieu de la taper.
Oh, oui, les anciens, ils pensaient comme ça. Oui. Et ça me disait toujours, Condiaron, un de nos anciens grands chefs, disait toujours à Frontenac et ses sujets autour, il disait, si vous voulez demeurer sur le gros de la Grande Tortue en Canada, le Canada d'aujourd'hui, faites-vous Huron. Et quand il disait « faites-vous Huron », c'était justement de se servir de la nature et non d'aller jouer contre la nature. Et ça, j'ai toujours trouvé ça curieux quand les anciens disaient « on se déplace, nous, sur la neige, et eux, ils essaient de la tasser ». Avec une petite philosophie
d'aujourd'hui. Jouer avec la nature plutôt que contre. Mais oui, c'est merveilleux. C'est
de s'essouffler à la pelletée au lieu de prendre le plaisir de marcher dessus à raquette.
Ça pourrait être le slogan de mouvement environnementaliste. Non, mais en fait, c'est une philosophie de vie, là.
Oui, vraiment. Oui, c'est une leçon, même.
Oui. Excellent. Bon, alors on note. Ben, juste pour conclure un peu sur l'entreprise familiale, comment est-elle positionnée mondialement aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous dirais que Racket GV se positionne très bien. On est encore, juste inclusif, là, mais je veux dire, ils sont encore allés seuls jusqu'à ce jour à fabriquer trois types de raquettes, donc l'infusion en plastique, la raquette d'aluminium et encore la raquette traditionnelle d'aujourd'hui.
C'est quoi la proportion de chacun, grosso modo?
C'est ce qui est justement qui m'attriste en répondant à votre statistique, c'est que je vous dirais que c'est entre 5 et 10 % ou 5 et 8 % de raquettes de bois aujourd'hui et 80 quelques pour cent d'aluminium et plastique là, confondus.
Ouais. Et c'est une tendance qui se maintient là.
Oui, parce que il y a eu une évolution. J'ai fait peut-être un saut qu'il serait bon de répéter aux auditeurs, c'est que dans les années 70, on va essayer de modifier notre raquette. Avant d'arriver à la raquette d'aluminium, on va avoir une raquette qui va s'appeler, puis ça va peut-être rappeler quelque chose aux auditeurs, la raquette de néoprène. C'est une raquette...
De néoprène.
De néoprène, oui. On lasse une raquette de bois. Ouais. C'est un alliage de caoutchouc qui était de couleur beige, qui était une raquette qui pouvait résister, donc elle ne défonçait pas à la neige mouillante, mais elle était très lourde et elle était très dure pour les lasseurs à lasser. Donc, quand on a voulu s'adapter au départ, au lieu d'utiliser la raquette d'aluminium ou de plastique, on est allé vers le néoprène. Okay. Et jusqu'à un certain moment donné...
Il y avait de la babiche, tout lassé.
Il y avait de la babiche, mais du néoprène pour répondre aux sucreries, aux choses comme ça. Mm. Et à un moment donné aussi, on va utiliser le nylon. Pour les sucreries. On va utiliser le nylon.
La paire de raquettes que j'ai, la portion du haut est en nylon, comme un gros fil à pêche.
Exact.
Mais le reste est lassé en babiche.
C'est ça parce que ce qu'on appelle, nous, la tête est beaucoup moins éprouvée au niveau, fait qu'elle peut être en nylon, puis elle vous allégeait. Mais oui, en effet, le néoprène va être utilisé à un certain moment donné, juste avant de dire on va passer à d'autres matériaux, on a utilisé ça. Mais ça n'a pas été un grand succès, mais ça a eu quand même vu le jour chez nous.
Alors, l'avenir de la raquette s'annonce bien.
Oui, moi, je pense que l'avenir de la raquette est toujours là. Écoutez, c'est un véhicule, je pense, qui doit être utilisé. C'est encore un véhicule de sauvetage pour les gens qui font de la motoneige puis qui ont besoin, mettons, quand il reste pris pour revenir à leur chalet ou à leur camp de pêche, ou pas camp de pêche, mais camp de chasse ou camp de trappe. Puis, je pense que ce sport-là est encore disponible. Il y a maintenant des sentiers qui sont encore là. On en parlait tout à l'heure. Et je pense qu'on va quand même avoir un avenir. Est-ce que présentement, je vais vous dire, puis peut-être que les gens vont me tirer peut-être quelques flèches, mais je dirais que peut-être que le sport est peut-être en dormance présentement. On dit en dormance, il n'est pas arrêté, mais qui est un peu plus calme. Il n'y a pas de vague présentement sur le lac. Il est un peu plus calme. Mm-hmm. On est d'une tendance là, plus calme. Mais je pense que, vous savez, les modes, c'est des courbes.
Oui.
Et je pense qu'un jour, on va atteindre une courbe montante.
Mais là, j'ai une petite question parce que ça touche la marche, ça touche tout ce qui est plein air. Il y a eu quelque chose qu'on appelle la pandémie. Est-ce que ça a eu un impact, peut-être un regain pour la raquette, parce que les gens se disent bon, ben là, tout ce que je peux faire maintenant, c'est d'aller marcher dehors, puis l'hiver, ben c'est la raquette.
Oui, il y a eu un petit regain. Je pense que la marche comme telle a été beaucoup plus populaire que la marche de raquette, mais en effet, mais vu qu'on avait énormément distribué de raquettes, il y a une dizaine d'années, les gens avaient quand même leurs équipements. On a fait de la réparation.
Oui.
Parce qu'on est les seuls encore qui fait la réparation de babiche, les raquettes en babiche. On les répare chez nous pour les gens qui en ont des besoins. On fait encore le vernis à la raquette et on répare les raquettes d'aluminium aussi. Donc, on a eu beaucoup de réparations. Les gens sont retournés à l'extérieur, mais je vous dirais que ça n'a rien à comparable avec les années 2007-2008 là, qu'on a connues. Vous savez, tu sais, nous, par contre, à Wendake, je vous ai dit qu'on était une famille d'entrepreneurs. Tu sais, moi, j'ai encore la boutique avec ma sœur de raquettes et artisanat Gros-Louis. Donc, nous, on a développé maintenant, dans les dernières années, on veut garder notre savoir-faire. Donc, je vous ai parlé tantôt de l'atelier de mon grand-père où est-ce que l'été, on relançait de la raquette et on fabriquait de l'artisanat. Ben chez nous, on a, dans les dernières années, on a fait l'acquisition de deux petites shops qui fabriquaient des ceintures de cuir qui ont dû fermer, dont une à Wendake. On a voulu garder le savoir-faire. On a aussi une compagnie, ça fait 40 ans qu'on travaillait avec eux du côté de Loretteville, qui était une compagnie de fabrication de mitaines et de gants de cuir.
Auclair, pas Auclair?
Non. C'était Gantec, dans l'ancien petit poulailler à Loretteville. Et donc, on a gardé ce savoir-faire-là. Donc, on fabrique nos régalia, aussi costumes traditionnels de danse dans l'atelier. Donc, on est capable de diversifier au niveau de l'offre. Et moi, ben, vous savez, depuis 99, j'ai ouvert le premier restaurant Première Nation à Wendake, qui est le Sagamité. Et on vient de faire la réouverture avec 340 places, qui est le plus grand, selon Tourisme Autochtone Québec, le plus grand restaurant Première Nation au Canada. Donc, on développe notre gastronomie via aussi nos chants, nos danses. Fait qu'on est quand même actif dans le milieu industriel, commercial. On a notre propre élevage de wapiti. Donc, tu sais, on continue à rester actif autour de ce que nos origines nous ont amené. Moi, je dis toujours que j'ai le plus beau métier du monde parce que je peux parler de ma culture et de vivre de ma culture à tous les jours. Puis ça, ben, j'en remercie Yosgia, le créateur.
Alors, Steve, on sent en vous l'entrepreneur né probablement ou de longue tradition. Michel, on a parlé d'entrepreneurship, mais c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement.
Ben oui, en fait, parce que toutes les communautés autochtones tentent de se positionner dans l'univers en général et les Wendat ont une bonne réputation par rapport à ça. Mais est-ce que, par exemple, la façon dont vous avez décrit avant la pause l'évolution de votre entreprise, un enrichissement avec d'autres choses par rapport à la raquette d'origine, est-ce que vous trouvez que c'est assez typique de comment se développe l'entrepreneuriat autochtone et justement, qu'est-ce que pensez-vous de l'entrepreneuriat autochtone par les temps qui courent?
Wow, ça c'est une bonne question. Écoutez, je vais parler plus de mon peuple, puis après ça, je vais quand même faire un survol, mais je ne vais pas parler à travers les autres communautés parce que je ne vais pas me faire reprocher des choses. Ce que je vous dirais, chez nous, les Wendat, je vous disais qu'en début d'entrevue qu'on est un peuple qui est commerçant depuis des millénaires et une diplomatie et une situation géographique qui nous a toujours avantagés. Moi, je sens ici à Wendake, il y a plus de 200 entreprises là, à travers la communauté, des petites, des plus grosses, des grandes. Oui. Il y a des gens qui emploient beaucoup de gens, l'industrialisation aussi. Aussi, l'autochtonie, malheureusement, à cause de certains faits et gestes qui est arrivé dans les dernières années, est revenu en avant-plan. Et lorsque je dis ça, c'est quand je dis malheureusement, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des enfants qui ont été retrouvés et ça a touché beaucoup les gens. Et ça a fait en sorte que ça a eu un regard, tu sais, où est-ce que maintenant il y a des journées pour ça. Je pense que ça l'a ouvert aussi l'esprit de certaines personnes. Fait que oui, moi je crois que on est à des bonnes airs au niveau de ce qui s'en vient. Nous, on est en développement, que ce soit touristique avec les installations qu'on a ici à Wendake. Moi, j'ai travaillé pendant un an et quelques avec Moment Factory sur un beau projet où est-ce que j'ai pu faire le danseur avec mes filles ont fait des chants, mon fils joue au guerrier, papa joue au guerrier, mais a fait le guerrier sur les palissades. Je fais allusion à Onoa Lumina.
Ce soir d'ailleurs.
Ah oui, donc un parcours lumineux qui raconte nos 4000 ans d'histoire. J'ai travaillé avec trois autres personnes de la communauté sur ce dossier-là. Où est-ce qu'on a travaillé avec Moment Factory en grande collaboration pour expliquer. Donc, c'est des partenariats qui n'existaient pas autrefois. Je vous dirais, tu sais, on a travaillé encore une fois avec un niveau de technologie et d'histoire pour avoir une authenticité, mm-hmm. mais en restant avec une technologie d'aujourd'hui. Et c'est ce qui en fait la beauté de ce projet-là.
Donc, ça me fait penser, je suis allé récemment à Mosaïque Culture à Québec, et puis j'ai été extrêmement surpris de voir toute l'importance qu'on a accordée dans la construction à Québec de choses qui venaient de Montréal et ailleurs. Mais on a enrichi ça beaucoup à partir de la tradition Wendat autour de ça.
Moi, j'ai vraiment apprécié ce geste-là. Vous faites allusion au bois de Coulonges.
Oui, exactement.
Hein, moi, je trouve qu'on avait une place de premier plan. Et c'est ce que moi, tu sais, souvent, je dis toujours, souvent la Ville de Québec ou le maire va dire on a une belle collaboration avec la nation, mais c'est des faits et gestes qu'on veut voir qui sont posés. Et autrefois, on n'avait pas ce plaisir-là. Moi, je me souviens du temps où est-ce qu'on allait dans le parc des Laurentides, que des générations, il y avait la trail là, du long de la Jacques-Cartier qui montait à chaque automne pour aller à nos camps de pêche et de camps de chasse. Et à un moment donné, avec la CEPAC, il y avait des grands conflits dans les années 80 où est-ce qu'on se faisait saisir nos canots, nos carabines et tout ça. Mais on est derrière tout ça. On a eu des ententes maintenant. On travaille avec le gouvernement sur la protection. Il y a eu, à un moment donné, des travaux qui ont été faits de voirie, tout ça. On a été interpellés, consultés. Donc, ça, c'est des belles choses.
On est dans une ère intéressante.
Oui, vraiment. Puis je pense qu'au niveau des autres communautés, c'est pareil. Je pense qu'on prend de la place. Moi, tu sais, vous savez, je préside Tourisme Autochtone Québec depuis quelques années parce que justement j'ai le goût de dire à d'aider nos membres avec l'expertise que j'ai acquis avec le temps. Ça fait quand même 24 années que je suis en restauration et plusieurs années de plus pour l'industrie de la raquette ou de l'art et de l'artisanat. Donc justement c'est d'aider les autres communautés qui ont été peut-être moins développées avec le temps compte tenu des situations géographiques.
Oui, bien ici on est pour des gens qui ne connaissent pas, quand on rentre à Wendake, dans le fond, faut le savoir d'une certaine manière, oui, on est très intégré à Québec.
On est à 15 km au nord du centre-ville de la ville de Québec. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on essaie justement d'aider ou du moins à collaborer avec les autres communautés pour leur développement touristique ou de savoir. Fait que, mais oui, je pense que l'essor et le tremplin est là présentement pour les communautés.
Quelle belle façon de terminer l'entrevue.
J'aurais un mot à dire, moi, pour dire à des gens qu'on s'adresse aujourd'hui. Moi, savez-vous, mon plus grand souhait, je disais tantôt que j'avais un fils des Wata, ou ma grande fille Kiara, ou ma plus jeune des Yawina, ou mon épouse Neva qui vient de la communauté chez nous. Mon souhait le plus cher, c'est que un jour, je souhaite pour les prochaines générations que les jeunes puissent marcher côte à côte dans le grand sentier de la vie. Ce que j'aime, c'est de penser qu'il n'y aura pas personne en avant et en arrière, mais que côte à côte, qu'on regarde vers l'avenir et qu'on soit capable de marcher dans ce grand sentier de la vie-là, ensemble. Moi, c'est mon souhait le plus cher, et c'est ce que j'aimerais vous dire à ce moment-ci de l'entrevue, parce que on est rendu là.
On a quand même un peu de rattrapage à faire, mais en fait, une des raisons pour lesquelles cette année, dans l'émission, on a choisi de mettre peut-être une couleur autochtone plus prononcée, pour apporter un peu notre petite contribution à cette chose-là.
Ben, c'est des gestes comme ça. Je vous disais en début d'entrevue, merci, hein, Tchiaouin dans ma langue, merci respectueux de me donner la chance de faire cette entrevue-là. Mais c'est avec des gestes comme ça qu'on pose, et des petits gestes qui font en sorte que ça va aider justement les prochains qui sont en avant nous, les prochaines générations.
Alors Steve, merci beaucoup de la passion, de l'inspiration et bon succès.
Tchiaouin, merci beaucoup. Honnête.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées, ainsi que sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Merci beaucoup à notre invité Steve Gros-Louis, de même qu'à Michel O'Neill, notre serein pèlerin des ondes. Merci également à Valérian Fournier à la régie, toujours aussi sympathique et souriant. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse cette semaine avec l'essence du mot de la fin de Steve Gros-Louis. Mon souhait le plus cher est que les jeunes de toute origine puissent marcher côte à côte sur le chemin de la vie. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!